Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire. Le personnage d'aujourd'hui va nous porter au cœur des rapports, souvent difficiles d'ailleurs, entre justice et couronne. Je vous propose en effet d'évoquer, ou plutôt de réhabiliter, le dernier chancelier de France, René-Nicolas Charles-Augustin de Maupoux. Au pouvoir lors des quatre dernières années du règne de Louis XV, le chancelier de Maupoux sut imposer une réforme de la justice indispensable pour sauver l'autorité du roi. Cependant, cette mise au pas de la justice lui valut la haine des magistrats, mais aussi la disgrâce et l'oubli. Or, l'ampleur de sa réforme ne peut être contestée et fait même de lui un des piliers de la justice actuelle. C'est en tout cas l'avis de notre invité d'aujourd'hui, Maître Chartier. Maître Chartier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro de Canal Académie.
C'est un plaisir.
Vous êtes avocat à la Cour. Historien, votre intérêt se porte sur les grands juristes du XVIIIe siècle. Vous avez consacré une biographie au chancelier d'Aguesseau, une autre en 2004 à Portalis, le père du Code civil. Vous en avez d'ailleurs parlé au micro de Canal Académie.
Oui, c'est exact.
Et donc, vous vous intéressez maintenant au chancelier de Maupoux. Vous venez de publier chez Fayard « Justice, une réforme manquée, 1771-1774 ». Je précise d'ailleurs que votre ouvrage est préfacé par Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, membre de l'Institut, décédé l'année dernière. Et d'ailleurs, si vous le voulez bien, Maître Chartier, commençons cette émission en rendant hommage à Jean Foyer, qui fut le premier à reconnaître le rôle majeur du chancelier de Maupoux, n'est-ce pas ?
Vous avez raison de le souligner, et c'est émouvant pour moi d'évoquer son souvenir, puisque je crois que cette préface qu'il a bien voulu faire de mon livre a été son dernier écrit public. Il a décidé tout de suite après m'avoir envoyé son manuscrit de cette préface, donc vous voyez, c'était très émouvant pour moi de l'avoir en tête de mon ouvrage. Jean Foyer m'a fait part de son intérêt pour le chancelier de Maupoux, car j'avais fait il y a quelques années une communication à l'Académie des sciences morales et politiques à l'occasion de l'anniversaire de la réforme du code de procédure. Et y participait bien sûr Jean Foyer. Il me dit « Ah, quel bonheur que vous ayez choisi ce sujet, car pour moi, Maupoux est le personnage central de la justice française, à tel point que lorsque j'étais garde des Sceaux du général de Gaulle, j'ai fait revenir du musée de Versailles le portrait de Maupoux pour qu'il soit installé à la chancellerie. » Et j'ai pu constater en effet, il y a quelques mois, que le portrait du chancelier était toujours place Vendôme, très bon état d'ailleurs, mais enfin il est là.
Alors nous allons nous intéresser au chancelier de Maupoux et surtout à sa réforme. Le chancelier de Maupoux arrive au pouvoir vraiment en tant que Premier ministre, non mais...
Oui, Premier ministre, vous pouvez le dire, il a eu le rôle de Premier ministre dès 1768, bien sûr.
Alors dans quel contexte arrive-t-il
au pouvoir ? Dans un contexte qui était déjà compliqué. Bon, c'était un homme précoce puisqu'il est rentré au Parlement, il avait 19 ans. Il a été président à Mortier à 23 ans et chancelier à 54 ans. Vous voyez que sa carrière est tout à fait exceptionnelle, mais il venait d'une famille de noblesse de robe, comptant beaucoup de magistrats, et de ce fait, il était tout à fait rompu aux affaires de justice. Et bien entendu, solidaire à cette époque-là de l'ordre judiciaire. Et puis, bon, les choses ont changé ultérieurement.
Mais on va peut-être, pour nos auditeurs, replacer un peu ce contexte et voir quels étaient les rapports des magistrats, enfin de l'ordre judiciaire, avec le pouvoir royal à cette période-là.
Alors, ils étaient très mauvais. Ils étaient très mauvais, mais ils ont toujours été très mauvais au cours de la monarchie. Les parlements sont issus de la curia régis romaine et des premiers siècles, mais au fur et à mesure que la cour du roi s'est constituée, il y a eu une sorte de formation de contre-pouvoir qui s'est fait, donc de rempart contre la monarchie absolue, et c'est le Parlement qui s'est destiné à remplir ce rôle de contre-pouvoir. Alors, les rapports ont été extrêmement tumultueux, puisque les rois qui avaient toujours besoin de subsides essayaient de demander au Parlement de faire voter des nouveaux impôts, et ce qu'il résistait, ou tout au moins le contraignait à faire, mais dans un certain contexte. Alors, donc, c'était très mauvais. C'était très mauvais à tel point que, en 1766, il y a eu la fameuse séance de flagellation, ce qu'on appelle la séance de flagellation, parce que le roi, ayant assez de supporter la vindicte de ses ses parlementaires, eh bien, a fait un discours très musclé et a exilé purement et simplement les magistrats dans leur province et puis a déplacé la cour à Soissons d'une part, à Pontoise. Voilà, toute l'histoire qui est immense des parlements et du roi et des rapports entre la monarchie et les parlements, c'est une histoire d'épisodes tumultueux.
Tumultueux, alors quelle va être la vision de Maupeou, quel va être son rôle? Parce que donc, c'est un magistrat, il va se ranger finalement du côté du roi.
Il va se ranger tout à fait du côté du roi, mais déjà quand même assez tardivement, puisqu'il remplissait la charge de premier président à la suite de son père, et qui était devenu vice-chancelier, et puis qui a été chancelier pour un jour, pour laisser la place à son fils. Il était déjà âgé de 80 et quelques années, donc il n'était pas capable de remplir sa charge. Mais très vite...
Et que Louis XV avait en fait très tôt remarqué le jeune Maupeou.
Oui, absolument, parce qu'il avait réussi lors justement de ces années 1966 et suivant. Il avait réussi d'une manière assez diplomatique à contrôler un peu l'action des parlements, à tout au moins à rendre moins acerbe. Et le roi l'avait donc remarqué, et c'est ainsi qu'il l'a choisi. Je fais l'histoire courte, mais bien entendu, il y a plusieurs épisodes dans cette nomination, mais il l'a choisi pour venir, comme vous le disiez, à la place de Premier ministre.
Voilà, on va peut-être parler d'ailleurs des conditions de son accession au pouvoir, entre guillemets, puisqu'il... chasse ou arrive au pouvoir selon les uns et les autres après le duc de Choiseul.
Alors peut-être pour vos éditeurs, faut-il rappeler d'une manière peut-être un peu symptomatique les circonstances dans lesquelles se trouvait la France à ce moment-là et surtout l'influence des parlements. Les parlements avaient deux rôles. Le rôle de rendre la justice, mais aussi le rôle d'enregistrer les lois que lui transmettait la cour, c'est-à-dire le roi. Et si le Parlement n'enregistrait pas la loi qui avait été transmise, eh bien, elle était inapplicable. Donc, ils avaient un droit de vérification, d'enregistrement et de remontrance. Le roi avait aussi quelques droits quand même, c'est qu'il pouvait contester les remontrances qui lui étaient faites et puis faire des lettres de jusion. Et la loi était renvoyée à ce moment-là devant le Parlement, qui avait encore le droit de faire des itératives remontrances, si bien qu'on avait un circuit comme on a aujourd'hui de temps en temps au Parlement, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, où il y a des navettes. Eh bien, il y avait des navettes aussi comme cela, mais beaucoup plus musclées qu'au jour d'aujourd'hui. Donc, la situation, c'est qu'elle était très bloquée. Et aussi, il y avait ce principe qui était l'unité de classe, qui était que le Parlement se considérait comme possesseur de la constitution du royaume. Et à cet égard, était, selon nous parlions tout à l'heure, le contre-pouvoir du roi. Et il considérait qu'il était possesseur des droits fondamentaux du royaume et de ce fait, habilité à s'opposer à certaines volontés de la monarchie. Voilà le contexte très brièvement et très schématiquement en fait. Du fait notamment des guerres, de la guerre de 7 ans, etc., les besoins de la cour étaient de plus en plus grands. Le roi souhaitait faire des nouveaux édits promulguant des impôts. Le Parlement s'y oppose et on se trouve dans un marasme économique total, à savoir que tous les quelques mois, le secrétaire d'État chargé des finances est obligé de démissionner parce qu'il n'arrivait pas à faire venir les impôts qu'il souhaitait faire venir. Et à ce moment-là, l'État était en faillite. Et au moment de Louis XV, l'État était réellement dans un état financier épouvantable.
Et quelle était la politique donc, du Premier ministre précédent Maupeou, Choiseul donc ?
Alors, Choiseul flattait les parlements. Ce qu'il voulait, c'est durer le plus longtemps possible. Il flattait les parlements. Il ne voulait pas du tout se les mettre à dos parce qu'il savait la puissance qu'ils avaient et de ce fait, jusqu'à son départ, a essayé de moduler les choses. Mais on est arrivé à un point de non-retour, le roi ne supportait plus.
Et est-ce pour justement mater, entre guillemets, la justice que le roi a fait venir Maupeou ?
Oui, il y a eu quelques autres secrétaires aux finances qui sont avant lui. Manifestement, c'était cela jusqu'au moment où il y a eu ce triumvirat entre Maupeou à la justice. Il y avait Terray, l'abbé Terray, le fameux abbé Terray, dont on pourrait écrire un roman de la vie aussi aux finances. Et puis le duc d'Aiguillon pour les affaires étrangères.
Alors, Maupeou va arriver en 1768. Il va avoir la totalité du pouvoir, entre guillemets, en 1770. Et là, les choses vont s'accélérer puisqu'il va faire passer l'édit de 1770 qui sera dans lequel...
L'édit de décembre, vous avez raison.
L'édit de décembre 1770, oui. Dans lequel se tient l'essentiel de sa réforme. Alors, quels sont les grands piliers de cette réforme ?
Alors, c'est une refonte totale de la justice. D'abord, il y avait deux solutions. Soit faire table rase et supprimer purement et simplement les parlements et de repartir à zéro. Et l'autre solution était de réformer par petites touches ce qui marchait le moins bien. Maupeou a choisi la seconde solution et a voulu à ce moment-là donc réformer le système judiciaire dans son entier et laisser aux magistrats parlementaires la possibilité de choisir. Bon, soit vous acceptez les réformes que je vous propose, et j'y reviendrai tout à l'heure, soit vous partez. Bon, évidemment, ça a provoqué une véritable révolution. Très peu de magistrats ont accepté les réformes qui lui étaient proposées, et d'autant que ça touchait directement leur... on peut dire leur caste, notamment la suppression de la vénalité des charges. Tout était basé sur la vénalité des charges. Les charges étaient achetées et parfois transmises par voie familiale. La gratuité de la justice, la suppression de certains tribunaux. Ils voulaient supprimer tout ce qui était les tribunaux seigneuriaux, puisque la France, à cette époque, c'était presque un procès et une juridiction particulière. Il y avait toutes sortes de tribunaux, de présidiaux, de prévôtés, et c'était une mosaïque absolument judiciaire. Et cela faisait que, affaiblissait, selon l'idée de Maupeou, la puissance royale, et il voulait supprimer tout cela pour afin d'unifier la justice française.
Nous sommes donc en 1770, c'est l'édit de 1770, mais il est temps de marquer une courte pause. Nous nous retrouverons dans quelques instants pour la suite de notre émission.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazeaud, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Nous sommes toujours en compagnie de Maître Chartier pour évoquer le chancelier de Maupeou et sa magistrale réforme de la justice. Nous venons d'évoquer donc l'édit de décembre 1770 et voir quelles étaient les principales mesures qu'il prenait. Maupeou s'est très vite heurté à la résistance des parlements et pourtant il va s'accrocher, j'ai envie de dire. Il engage une véritable lutte avec les parlements. Comment va-t-il réussir à en sortir vainqueur ?
Il va en sortir vainqueur tout simplement par la protection du roi. Le roi Louis XV a dit « je ne changerai jamais ». Parce qu'il avait bien compris que c'était sa dernière chance de sauver peut-être sa couronne, ce que ne comprendra pas son successeur. Donc le processus a été, et à Paris et dans les provinces, de faire accepter en principe de la réforme de Maupeou, c'est-à-dire donc la suppression de certains tribunaux, et puis une refonte totale de la carte judiciaire. Alors, vous voyez, déjà, on parle de carte judiciaire à cette époque-là, et je crois que la presse a relaté de fond en comble les projets actuels du gouvernement, et aussi imposer... dans un principe d'indépendance d'ailleurs, la suppression de la vénalité des charges et la gratuité de la justice pour rapprocher le juge du justiciable. Bon, tout ça, c'était des éléments particulièrement modernes et qui étaient totalement révolutionnaires pour l'époque.
Oui, d'ailleurs, vous dites dans votre ouvrage que finalement, Maupeou était en avance sur son temps.
Totalement en avance sur son temps, puisque c'est très, très symptomatique de voir que certains de ses écrits pourraient... très très bien avoir été écrit aujourd'hui quand on parle d'unité des professionnels du droit, là où ils considéraient qu'il y avait beaucoup trop d'échelons et qu'aujourd'hui on parle, c'est pas encore totalement voté, mais on parle d'une unicité de la profession judiciaire. Les racines se trouvaient déjà dans les réformes de Maupeou.
Donc pendant plus d'un an, le Parlement de Paris mais aussi ceux de province ont essayé de résister à Maupeou, et finalement, il va briser certains parlements, en exiler certains, recruter du coup de nouveaux parlements. Peu à peu, il met en place un nouveau système judiciaire. Louis XV meurt en mai 1774. Est-ce que le système de Maupeou fonctionne à ce moment-là ?
Il fonctionne. Il fonctionne parce que la France s'était habituée finalement. Avec intelligence, Maupeou avait récupéré des magistrats très valables et qui s'étaient finalement ralliés à ses idées. La France et même la population, le justiciable, dirons-nous, accepte les réformes, même bon, si du fait de la réforme de la carte judiciaire, il fallait se déplacer un peu plus pour se faire juger dans un endroit ou dans un autre. Finalement, les Français l'avaient accepté, les choses étaient totalement calmées. Et puis arrive Louis XVI, qui est influencé par la cour et surtout par la reine, Marie-Antoinette, qui détestait Maupeou. Eh bien, il le disgracie et la réforme s'arrête, puisque Louis XVI rappelle les parlements, rétablit la vénalité des charges, rétablit les épices, supprime les conseils supérieurs et les cours d'appel que Maupeou avait institués. La réforme était mise à néant.
Cette mise à néant de la réforme de Maupeou, est-ce ça qui l'a menée à l'échafaud ?
Peut-être, on l'a dit, et je ne sais pas si, vous savez, le fait historique est unique, on ne refait pas l'histoire non plus, donc je ne sais pas du tout si on aurait évité la révolution, mais il y avait tous les éléments pour penser que les réformes auraient certainement influé, ou tout au moins retardé la révolution. Elle ne se serait pas faite dans les mêmes conditions si la réforme avait été maintenue.
Il est d'autant plus étonnant de voir la réaction de Louis XVI que lorsqu'il avait adressé quelques années auparavant ses félicitations au chancelier de Maupeou pour son édit justement de 1770.
Vous avez tout à fait raison, Louis XVI avait annoté sur l'édit « Cela est très beau, monsieur le chancelier, cela est le vrai droit public ». Et Maupeou, lorsqu'on lui a annoncé, après sa disgrâce, le rappel des parlements, il a eu cette belle phrase, il a dit « Si le roi veut perdre sa couronne, il en est bien le maître ».
Donc Maupeou va être disgracié en août 1774, à peine quelques mois après la mort de Louis XV. C'est la disgrâce, mais il ne perd pas son titre de chancelier.
Absolument, puisqu'il l'a dit d'ailleurs au duc de Lavrière qui est venu lui signifier son exil. Il dit « Je mourrai avec ma charge, elle est inhérente à ma personne ».
Charge qui sera abolie en 1790, oui. Et donc le chancelier de Maupeou est le dernier chancelier.
Le dernier chancelier de la monarchie.
Le dernier chancelier.
Alors il y aura bien entendu l'archi-chancelier que sera Cambacérès lors d'époque napoléonienne. Encore que, il est repris, enfin, la Convention, et puis le Consulat, et puis l'Empire a repris la plupart des formes de
Maupeou. Oui, parce que nous avons oublié de préciser. Donc, le chancelier de Maupeou s'est marié en 1744 avec une riche héritière.
Oui, Thérèse de Roncherolles.
Avec laquelle il a eu deux enfants, oui, deux fils, oui. Et il avait comme précepteur pour ses enfants...
Voilà, Lebrun, qui est devenu architrésorier, donc un des trois principaux personnages du Consulat et de l'Empire.
Et il a repris finalement du travail de son maître dans les réformes qu'il proposa par la suite.
Tout à fait.
Mais revenons-en au chancelier de Maupeou. Donc il quitte le pouvoir en 1774, il se retire en Normandie. Et il est étonnant de voir que début juillet 1789... Nous sommes avant, donc, quelques jours avant la Révolution. Il fait parvenir à Louis XVI un mémoire. Pourquoi lui fait-il parvenir ce mémoire ? Éprouve-t-il le besoin de justifier son action ou est-ce une ultime tentative pour sauver l'autorité royale ?
C'est une question personnelle que vous me posez. Moi, je crois que c'est un peu les deux. C'est que, d'une part, il voulait se justifier parce que, bon, vieillissant, il voulait montrer que sa détermination était tout à fait dans l'intérêt de la monarchie. Et il pensait bien quand même, puisqu'il a fait porter son compte-rendu, qui est une magnifique œuvre de juriste, mais aussi de littérature, la langue est magnifique, ce compte-rendu au roi est déposé à la Bibliothèque royale le 3 juillet 1789. Donc 10 jours avant la prise de la Bastille et personne ne se rendait compte de rien.
Vous joignez d'ailleurs ce compte-rendu, je précise, entier. Il se trouve en annexe de votre ouvrage.
Oui, tant il est essentiel. Et alors c'est un document qui est resté, pas perdu, mais ignoré pendant très longtemps. Et c'est un professeur tout à fait remarquable qui s'appelle Flammermont, qui en 1880, en travaillant sur les parlements, a redécouvert ce manuscrit qui était donc déposé à la Bibliothèque royale. l'a mis en exergue et a étudié. Ce n'est pas pour ça qu'il a d'ailleurs été très favorable, ce professeur Flamermans, qu'il était favorable à Maupeou. Mais c'est encore une époque où, disons, l'ordre judiciaire se soutenait beaucoup.
Nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup, Maître Chartier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Justice, une réforme manquée, 1771-1774, aux éditions Fayard. Au revoir.
Merci, au revoir.